Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Aujourd'hui, nous allons écouter la deuxième partie du dernier épisode de la série Les Givrés d'épaule, réalisée par Oriane Larromiguière. Bonne écoute.
Les Givrés.
Les Givrés.
C'est toute la glace du pôle Nord fond. Est-ce qu'on aura des pieds dans l'eau? Les givrés d'épaule.
Les givrés d'épaule.
Les givrés d'épaule, le podcast qui explore les zones polaires. Vous écoutez la seconde partie de l'épisode 5 des Givrés d'épaule, avec Heidi Sevestre. Heidi Sevestre est glaciologue, elle est née dans les Alpes. Mais en 2008, elle découvre le Svalbard, un archipel norvégien situé à 1000 km du pôle Nord. Dans la première partie de cet épisode, elle nous racontait ce lieu unique, sa première rencontre avec les zones polaires, l'immensité des glaciers environnants, et cette lumière, si particulière. Il y a un an, Heidi est repartie au Svalbard dans le cadre de l'expédition scientifique Climate Sentinels, les Sentinelles du Climat. Une expédition faite d'une équipe 100% féminine. Pendant un mois, avec ses trois collègues, elles vont parcourir plus de 450 km en ski, en tirant une poulka chargée d'équipement. Pour souffrir un peu plus, dit-elle en souriant. Mais surtout pour être le plus propre possible, c'est-à-dire avoir le moins d'impact, être neutre en termes d'émissions de carbone. Pendant leur périple, elles vont récolter près d'une centaine d'échantillons de neige pour analyser la pollution atmosphérique qui impacte sévèrement cette région du monde. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de cet épisode. Dans cette seconde partie, on reste dans les traces de Ski d'Heidi. Pendant cette expédition, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Sur le terrain, les scientifiques doivent faire face à des conditions météo particulièrement difficiles.
On voyait pas d'issue en fait à ces conditions horribles, surtout par rapport au campement. Ce qui est très dangereux, c'est qu'en fait, le Svalbard, il n'y a pas d'arbres. C'est pas comme si on pouvait planter ses tentes derrière un obstacle pour se protéger du vent. T'es tout le temps exposé au vent. Et nos amis, nos fameux météorologues, nous avaient prévenu des jours en avance qu'il y avait la plus grosse tempête qui était en train d'arriver, un truc qui n'avait jamais été mesuré. Et là, on s'est dit, waouh, ok. Donc là, c'est vraiment du sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on ne perde pas nos tentes pendant la nuit? Parce que les tentes, même si tu es dedans, peuvent se faire arracher par le vent. Et en fait, un peu en rigolant, j'avais dit, de toute façon, il n'y a plus qu'à s'enterrer quoi, dans ce cas-là. Et en fait, Silja, norvégienne, guide qualifié, guide arctique, m'a dit, mais non, mais c'est exactement ce qu'on va faire. On va devoir s'enterrer dans la neige parce qu'on n'a pas le choix.
All right, so here we are inside the snow cave. So we basically dug like a central alley with a door, and in order to make a little roof, we're using our skis and snow poles, and we've made little shelves on the sides to be able to have all our equipment there.
Ça nous a pris 5 heures pour trouver un endroit relativement safe, un endroit où s'il y aurait une avalanche par exemple, et ben finalement ça allait pas recouvrir nos petits trous dans la neige. 5 heures à creuser des cavités suffisamment grandes pour y rester quelques jours, parce qu'on ne savait pas combien de temps la tempête allait durer. Et finalement, c'est vraiment ce qui nous a sauvés, parce qu'on sait que cette nuit-là et la nuit suivante, il y a pas mal d'expéditions qui ont été évacuées à cause de ces vents qui ont été juste hallucinants. Et en fait, ces trous dans la neige se sont révélés une bénédiction absolue, parce qu'on était dans nos petits trous, alors certes, pas hyper confortables, mais on n'avait aucune idée de l'apocalypse qui se jouait dehors. Et on devait sortir de temps en temps pour prendre l'air, pour faire nos besoins aussi, c'était important. Et quand on sortait, mais c'était, on tenait pas debout, c'était vraiment l'apocalypse totale.
Within the cave, it's extremely quiet. We can barely hear actually the storm outside. The temperature is pretty nice. It's between -6 and -1. If it gets too warm, it would be a problem because this would start to melt and drip over us. So, yeah, everything is good, and we have one more night here at least. So, yeah, it's good to rest. I'm glad we're not camping outside, that's for sure.
Donc ces trous dans la neige, on les a fait au début de l'expédition et on a essayé de les refaire plusieurs fois quand on a eu d'autres tempêtes qui sont arrivées et on n'est pas arrivé à transformer l'essai les fois suivantes parce qu'il fallait que la neige soit d'une certaine qualité et il faut pas que tu perdes trop d'énergie et trop de temps à creuser tes trous dans la neige non plus. Mais c'était la première fois que je faisais ça. Dans toutes les expéditions que j'ai faites, j'avais jamais eu l'occasion et j'avais jamais eu des conditions aussi horribles, je pense, pour en arriver là. Et je suis très contente qu'on l'ait fait et je pense que ça nous a complètement sauvés, en tout cas à ce moment-là.
Camper au Svalbard, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Après une journée d'effort à ski, on ne trouve ni arbre où s'abriter, ni refuge où passer la nuit sereinement. Dans cette région du monde, outre le vent, le froid, les crevasses et la banquise, il y a un autre danger avec lequel il faut composer, car on pénètre sur le territoire de l'ours polaire.
C'est un risque extrêmement sérieux, cet ours polaire, c'est vraiment notre épée de Damoclès 24 heures sur 24. Et pour camper, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe. On s'est dit qu'on allait prendre absolument toutes les précautions possibles pour pas se retrouver dans une situation où on dérangerait un ours et aussi on se mettrait nous-mêmes en danger, quoi. Et donc, quand tu plantes ta tente au Svalbard, il y a plusieurs façons de faire, mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est t'installes ton camp et en fait, tout autour du camp, tu vas avoir un petit filin. Généralement, c'est même un fil de pêche qu'on utilise qui va être tendu. Alors, tu utilises ce que tu peux, hein. Nous on a beaucoup utilisé nos skis, nos bâtons de ski plantés fermement dans la neige. Et ce câble, ce filin que tu plantes autour de ton campement, va en fait être accroché à des sortes de petits explosifs, des sortes de mini-grenades, où si quelque chose franchit ce câble, ça va dégoupiller ces petits explosifs qui vont exploser, faire une détonation, qui vont pas forcément faire peur un éventuel ours polaire, mais au moins qui vont réveiller l'équipe. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tripwire, ou le snowblubus, en norvégien. Et c'est, en fait, la protection numéro un par rapport aux ours polaires, c'est ce qu'on recommande. C'est vraiment la protection de base quand tu campes.
So as you can see now, the tripwire has been installed all around camp. We have 4 poles, one behind here, one there. With 2 different heights, which is great because we've seen polar bears. Oh, we've been told that polar bears can crawl under these wires.
Crois-moi, quand t'es dans ta petite tente au milieu de nulle part et que tu sais qu'il y a des ours polaires dans les environs, tu dors pas tranquille. Parce que souvent, ce snowblubus ne marche pas quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, quand il y a trop de vent ou quand il y a pas assez de vent. En fait, tu sais jamais quand est-ce qu'il va marcher et donc tu peux jamais vraiment compter dessus. Mais à côté de ça, t'as d'autres moyens de protection. Alors quand on est au camp, on a toujours par exemple un fusil, c'est obligatoire, un fusil qui est préchargé pour pouvoir l'utiliser très rapidement. On a aussi un pistolet qui tire des fusées qui elles aussi font du bruit, là pour faire peur à l'ours polaire. Mais la meilleure protection est de loin, c'est de faire des gardes, des tours de garde pendant la nuit. Et dès le début de l'expédition, j'avais dit à mon équipe, écoutez, il n'y a pas moyen. Pendant un mois, on fait des gardes la nuit. Quitte à pas dormir pendant un mois, tout le temps, il faut qu'il y ait une de nous qui soit éveillée. Toutes les 2 heures, on fera une relève, mais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours réveillé pour surveiller le camp. C'est le meilleur moyen, finalement, de surveiller les ours. Et crois-moi, au bout d'une semaine d'expédition, on dormait pas tellement que les conditions étaient horribles. On a assez vite changé de stratégie. On a décidé d'éviter à tout prix de camper dans des endroits où on savait qu'il y aurait des ours. c'est-à-dire au bord des fjords. On a décidé aussi d'utiliser des cabanes de trappeurs, s'il y en avait. Il n'y en a pas énormément au Svalbard, mais on a pu en trouver quelques-unes, pour essayer de minimiser finalement cette exposition aux ours polaires. Bon, ça ne nous a pas toujours souri, finalement, cette stratégie, mais je pense qu'on a évité pas mal de problèmes. On a croisé quelques ours pendant l'expédition, heureusement pas énormément. Je pense que tous les ours polaires étaient sur la côte est, là où il y avait beaucoup de banquises. Nous, on était côte ouest du Svalbard. Pas beaucoup de banquises un peu pourries, mais il y avait quand même quelques ours. Et on a croisé quelques ours au début de l'expédition qui étaient vraiment tranquilles, quoi, tranquilles dans le sens où ils avaient peur de nous. Donc les ours sont partis en courant très vite dès qu'ils nous ont vus. Et en fait, un soir, malheureusement, je crois que c'était au bout de pratiquement 10-15 jours d'expédition. Donc là, on a quand même bien entamé, on est quand même bien fatigué. Même si on s'était toutes mises d'accord sur le fait qu'on ne camperait pas au bord d'un fjord, ben finalement, on venait de passer une journée, on avait fait 15 km en ski, à tirer une pulka hyper lourde. Le soir, il était pratiquement 7 heures du soir, on se retrouve au bord d'un fjord. Et la seule solution pour échapper au bord du fjord, c'était de remonter à un glacier qui avait l'air pratiquement vertical, quoi. Petit débat dans l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une exception et on décide de dormir là, dormir au bord du fjord? Ou est-ce qu'on se tanne et on se dit, bon allez, on se remonte les manches et on remonte le glacier pour éviter de camper au cœur de la niche écologique des ours polaires? Évidemment, tout le monde s'est mis d'accord pour camper au bord du fjord parce qu'on était trop fatigués. Et le campement était somptueux, j'avoue, quoi, c'était idyllique. T'as de la banquise infinie autour de toi, on avait le glacier juste derrière nous. On installe le camp, on installe le tripwire, on se prépare à aller se coucher, le fusil est chargé, le pistolet est préparé. Et là, c'était à partir du moment où on avait décidé de ne plus faire de garde pour les ours, parce qu'on devenait beaucoup trop fatigués. Donc là, voilà, j'avais dit, personne n'écoute de la musique ce soir avant d'aller se coucher, personne met des boules qui essent, parce qu'il faut être attentif vraiment à chaque bruit qui va se passer autour des tentes. Et en fait, on n'a même pas eu le temps d'aller nous coucher, on était en train de préparer le repas, de faire fondre de la neige, et j'ai ma pote Anne de la tente à côté qui vient dans ma tente et qui nous dit, il y a un ours à 100 mètres, et l'ours est en train de se rapprocher, quoi. Bah là, ton sang fait qu'un tour, crois-moi, t'as même pas le temps de réfléchir, tu prends immédiatement le pistolet dans ta main, pas du tout pour shooter l'ours, mais pour lui faire peur, pour lui montrer qu'on n'est pas un garde-manger, on est là, on veut montrer qu'on n'est pas une proie. Donc je tire immédiatement la fusée en direction de l'ours, ça part à une centaine de mètres, ça tape à côté de l'ours. L'ours ne bronche pas, mais genre aucune réaction, tu vois. C'est pas comme si il avait été un petit peu alerté, mais vraiment pas du tout de réaction. Donc là, on se dit, bon, c'est pas la peine. L'ours, il est là, il va rester là. Après tout, on est ici chez lui. On peut pas garder le campement ici toute la nuit. Il faut qu'on bouge. Donc on a eu du bol, parce que Silvia de mon équipe a eu du nez ce soir-là. Elle savait qu'il y avait justement une cabane pas très loin. Une cabane qui était fermée à clé. On a utilisé notre téléphone satellite, fait quelques coups de fil à quelques amis. Et heureusement, on a pu démonter le camp. Ça a été très compliqué pour atteindre la cabane parce que l'ours n'arrêtait pas de se mettre en travers de notre chemin. Il voulait vraiment pas lâcher le morceau. En fait, systématiquement, quand on s'est remis en chemin, donc quand on a plié le campement, allé en direction de la cabane, l'ours se mettait toujours en face de nous. Il était toujours à peu près une centaine de mètres. Donc la distance était là quand même, mais une centaine de mètres pour un ours, il te le mange en quelques secondes, hein, s'il se met à courir. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas en fait utiliser nos réserves de fusées, parce qu'on avait encore 3 semaines d'expédition à faire. Et donc, pour ne pas montrer que t'es la proie, il faut montrer que t'es plus fort que l'ours, ou au moins faire croire. Ça avait l'air sûrement assez comique, je pense, de loin, mais on a hurlé pendant quelques heures sur l'ours pour essayer de montrer qu'on était plus grande que lui, plus forte que lui, et je pense que ça l'a pas beaucoup impressionné. Mais il a dû dire qu'on n'était pas si intéressante que ça, et finalement, il est parti, ouais. Et au bout de quelques heures de marche, de ski, on a pu se jeter dans la cabane, tout fermé à double tour, et finalement, tout est bien, qui finit bien. Mais je peux te dire que quand t'es en ski, avec toute ta vie sur ta petite pulka, et que t'as rien d'autre, tu te sens vraiment peu de choses, quoi. Et l'ours, il est gigantesque, même si t'as l'impression qu'il marche pas très vite, il marche de toute façon plus vite que toi. Si tu te mets à courir, l'ours de toute façon va courir plus vite que toi, et c'est toujours lui qui finira par gagner. Et nous, on voulait vraiment pas le déranger. Là, on l'avait dérangé. On voulait absolument pas avoir à se friter avec lui, et donc on a pris notre temps, on a beaucoup crié pour lui faire peur, et finalement tout s'est bien terminé, il a fini par nous laisser tranquille.
Après un mois d'expédition et 450 km parcourus, les quatre scientifiques ont prélevé près d'une centaine d'échantillons de neige qui ont ensuite été envoyés à une université aux États-Unis.
C'est là où est Aliyah, donc, qui fait partie de l'équipe, notre collègue à Western Washington University. Et Aliyah va commencer à analyser les échantillons dans quelques mois. Là, elle est en train de rassembler une petite armée d'étudiants en master pour faire tout ce travail de laboratoire. Et ce qu'on va chercher avec les analyses qu'on va mettre en place, c'est deux choses. D'une part, on va essayer d'identifier quelle est la source de ces émissions, dans le sens, quelle est la nature de l'énergie fossile qui a brûlé. Est-ce que c'est par exemple un feu de forêt qui a engendré cette pollution et cette pollution s'est retrouvée au Svalbard? Est-ce que c'est le diesel des voitures? Est-ce que c'est une usine à charbon? Donc ça, on peut l'identifier grâce à nos tout petits échantillons, ce qui est vraiment absolument génial. Et aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, et là, le travail va pouvoir commencer un petit peu avant, c'est grâce au modèle météo de reconstruire le chemin parcouru par ces particules fines. Et ça, c'est vraiment hyper important, parce que si tu arrives à identifier géographiquement d'où vient la pollution, bah c'est là où tu vas pouvoir finalement cibler ton problème et trouver des solutions. Et en fait, au Svalbard, le Svalbard se prend des vents qui viennent vraiment de partout. On sait que ça peut venir des États-Unis, d'Amérique, ça peut venir d'Europe, ça peut venir d'Asie. Donc ça va être hyper intéressant de voir exactement pendant ce mois d'avril où il y a eu énormément de masses d'air qui sont venues avec toutes ces tempêtes qu'on a eues. Même si c'était pas très agréable sur le terrain, c'est super pour notre étude scientifique. Beaucoup de neige fraîche, donc beaucoup de nouvelles particules fines qui sont arrivées. Ça va être super intéressant de voir d'où venaient ces petites particules en question. Et ensuite, le travail n'est pas fini, il faut écrire tout ça, passer tout un tas de tests, se faire tester par nos pairs, valider par nos pairs, pour arriver à une publication scientifique. Et l'objectif, c'est de pas du tout s'en arrêter, s'en tenir à ça, c'est d'aller au-delà d'une publication scientifique et essayer de rendre ces résultats les plus accessibles possibles. Parce que ça, c'était aussi super important pour notre expé, c'est certes de faire une expédition, mais de rendre la science la plus accessible possible. Et tout au long de la préparation de l'expé, on a pu dialoguer avec des écoles du monde entier. Et crois-moi, ils ont encore plus hâte d'entendre les résultats que nous, je crois. Ils nous poussent beaucoup. Et on a hâte, en tout cas, de pouvoir communiquer les résultats avec eux dès qu'on les aura.
Depuis plusieurs années, Heidi Sevestre consacre donc son temps à vulgariser ses connaissances et à alerter le grand public, jeune et moins jeune, mais aussi le monde politique.
Le Svalbard, pour moi, a beaucoup compté parce que ça a été une grande partie de mes études. Ça m'a permis de devenir glaciologue et ça m'a aussi permis de comprendre quelle était l'importance de communiquer sur la science que l'on fait, même au bout du monde. Pendant tout mon doctorat au Svalbard, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs d'État, des choses complètement folles comme des reines et des rois, des ministres qui venaient d'un peu partout. Et finalement, j'ai eu un déclic en étant là-bas, en disant « mais finalement, si on ne fait que publier des articles scientifiques dans des journaux scientifiques, personne n'aura accès à cette science-là et personne n'aura envie d'agir pour l'Arctique, n'aura envie d'agir pour ces régions polaires, pour combattre ce dérèglement climatique. » À ce moment-là, voilà, je venais de finir mon doctorat en glaciologie, j'avais pas envie de lâcher le domaine académique d'aussitôt. J'ai enchaîné avec un post-doc en glaciologie, pendant lequel j'étais pas vraiment heureuse. Parce que je crois que j'avais compris là où était ma plus grande passion, là où je savais, où j'espérais du moins pouvoir faire la plus grande différence, c'était dans ce domaine de ce qu'on appelle la politique scientifique et la communication scientifique. Et je savais pas vraiment comment quitter le monde académique et me lancer là-dedans. J'ai commencé par faire beaucoup de bénévolat pendant mon post-doc. Et ensuite, quand mon post-doc est arrivé à sa fin, j'ai décidé de prendre au moins une année pour voir ce qui se passait de l'autre côté du rideau. Comment est-ce que notre science, elle est communiquée aux chefs d'État, au gouvernement, au parlement, aux sénateurs? Comment ça se passe? Et ça m'a complètement ouvert les yeux et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce bagage scientifique comme moi, peut-être cette expérience, cette intégrité, cette expérience de terrain qui peuvent ensuite aller voir ces personnes-là de très haut niveau qui, eux, peuvent prendre des décisions hyper importantes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler pour deux organismes. Je travaille pour une ONG américaine qui s'appelle la ICCI, la International Cryosphere Climate Initiative. Et donc avec eux, ce qu'on fait, c'est beaucoup de briefings auprès de gouvernements, de briefings scientifiques. Et je travaille aussi pour un des groupes de travail du Conseil de l'Arctique qui s'appelle AMAP. Et avec AMAP, ce qu'on fait, c'est qu'on coordonne toute la science sur le dérèglement climatique dans l'Arctique. Et eux aussi comprennent de plus en plus l'intérêt d'aller au-delà de rapports scientifiques, d'articles scientifiques, pour rendre cette science accessible aux jeunes générations et au grand public. Et je suis hyper passionnée par ce que je fais, parce qu'il y a urgence, il faut absolument que notre science continue, il faut qu'on ait de plus en plus de scientifiques sur le terrain, mais il faut aussi qu'on ait de plus en plus de scientifiques qui communiquent sur ce qui est en train de se passer. Tu sais, si nous, les scientifiques, avons la chance d'avoir les pieds sur le terrain, d'avoir la chance de savoir à quoi ça ressemble un glacier qui se désintègre, un glacier qui disparaît, si nous, on lâche le morceau, mais finalement, qui sera là pour aller défendre le Svalbard, aller défendre ces glaciers? Donc c'est vraiment hyper important qu'on soit là, même si... C'est pas le monde des bisounours, hein, c'est pas la joie tous les jours. Au moins, on ne se laisse absolument pas abattre et on ne lâche rien. Je pense qu'aujourd'hui, si on a pris autant de retard dans la lutte contre le dérèglement climatique, c'est aussi en partie parce que la science n'est pas accessible, parce que la science n'est pas comprise. Et on a de la chance au niveau international d'avoir ce groupe d'experts qui s'appelle le GIEC, qui, à intervalles réguliers, publie un énorme rapport. On en parle souvent, les rapports du GIEC, pour faire un peu un état des lieux sur le dérèglement climatique. Et le GIEC, alors le GIEC, c'est quoi? C'est un groupe d'experts internationaux sur le climat. Il y a à peu près 1000 scientifiques qui font partie du GIEC. Et le GIEC ne produit pas de nouvelles sciences, mais en fait fait une compilation de tout ce qui a été publié jusqu'à une certaine date. Et ces rapports sont extrêmement importants, parce que donc ils font un état des lieux sur là où on en est, mais surtout ils travaillent sur des projections pour essayer de, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui, essayer de dessiner finalement l'avenir dans ce réchauffement climatique. Et c'est un travail extrêmement complexe, évidemment, de savoir déjà là où on en est aujourd'hui, là où on est en train d'aller, pour pouvoir, du mieux possible, alerter les gouvernements, alerter le grand public, les jeunes générations, pour se préparer à ce qui se passe, et tout faire pour éviter les pires conséquences du dérèglement climatique. Moi, j'ai de la chance, j'ai eu certaines de mes études qui sont dans les rapports du GIEC. C'est un travail absolument monumental, ce qu'ils font. Mais on a besoin justement d'avoir cette sorte de pilier qui est publié à intervalles réguliers, quelque chose qui est reconnu par les gouvernements du monde entier. Ce qui nous montre, c'est qu'on est en train de se mettre complètement dans le rouge aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de suivre la trajectoire du pire scénario en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que, certes, le Covid l'année dernière a peut-être réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais le CO2 dans l'atmosphère continue à augmenter. Maintenant, on est dans une relance de l'économie après le Covid. Et tous ces plans de relance, finalement, sont en train de catapulter nos émissions de gaz à effet de serre encore plus que ce qui était prévu. Et malgré tout ça, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut absolument pas dépasser certains seuils de température pour éviter les pires conséquences du dérèglement climatique. C'est pour ça qu'il y a des grands accords internationaux comme l'accord de Paris, hein, qui a été signé en 2015, l'accord de Paris qui nous dit qu'il faut rester sous les 1,5 degrés pour éviter les pires conséquences du dérèglement climatique. Et ce que nous montre le GIEC aujourd'hui, c'est qu'on n'est absolument pas sur la bonne trajectoire pour rester sous les 1,5 degrés. Et plus on attend, plus ça va être difficile, plus ça va être cher et plus ça va creuser les inégalités sur Terre. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment pas le choix, il faut tout faire pour agir. Il n'est pas trop tard pour agir, on n'est pas encore à ces 1,5 degrés. Aujourd'hui, on a gagné à peu près 1,1 degré, depuis les années 1880, depuis l'ère pré-industrielle. Donc on a une toute petite marge d'action, mais c'est 1,5 degré. Là, on est en train de courir pour y aller le plus vite possible. Et une fois qu'on les aura franchis, malheureusement, on aura des conséquences irréversibles qu'on ne pourra plus arrêter, de déstabilisation du climat, de déstabilisation des calottes polaires, etc., etc. Donc ce dérèglement climatique devient de plus en plus sérieux. Là, on a bien vu cette année, on a eu des derniers mois assez apocalyptiques, il faut le dire. La situation est très compliquée. On n'est qu'à 1,1 degré. Notre trajectoire aujourd'hui, elle nous amène vers les 3-4 degrés d'ici la fin du siècle. Donc il faut agir le plus vite possible.
Début avril, Heidi Sevestre a décroché la médaille Shackleton, qui récompense celles et ceux qui agissent pour la protection des régions polaires. En la recevant, Heidi pouvait difficilement cacher son émotion. Car le nom d'Ernest Shackleton résonne tout particulièrement pour elle. Au point qu'elle a même baptisé son chat en l'honneur de l'explorateur britannique. Dans son salon où nous enregistrons, le matou est bien tranquillement installé en boule et nous toise du haut de son arbre à chat.
Oui, alors mon Shackleton, c'est un Maine Coon de 10 kilos maintenant, qui vient de fêter ses 1 an. Il est là, il se léchouille, là. Il se réveille de sa sieste, mais c'est un sacré marcheur et je pense que c'est plus lui qui me promène tous les jours que l'inverse. C'est pour ça que je lui ai donné un nom, pour l'inspirer un petit peu à oser découvrir son quartier un petit peu plus. Je crois que les histoires de Shackleton, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus ultime, ce qu'il y a de plus extrême en termes d'exploration, en termes de survie. C'est quelqu'un qui, quand tu lis ses écrits, t'as du mal à croire ce que cette personne a vécu dans des temps où on connaissait peu de choses ou pratiquement rien de l'Antarctique. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à découvrir ces récits de l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique, t'as envie de manger tous ces livres, quoi. Et c'est vrai que pour moi, Shackleton, autant il y a eu des noms très importants qui ont marqué l'histoire de l'Antarctique, mais Shackleton, j'ai quand même un gros faible pour lui. Et en termes de leadership et en termes de survie, ouais, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, c'est sûr.
Plus de 100 ans après Ernest Shackleton, Heidi Sevestre fait elle aussi preuve de courage et de persévérance. Elle ne semble jamais perdre espoir malgré les sombres nouvelles qu'elle partage.
C'est vrai que mon travail aujourd'hui a des aspects un peu frustrants par moments. J'ai cette chance en tout cas d'avoir l'occasion d'amener cette science à des gouvernements, à des chefs d'État, à des sénateurs, et de leur montrer très clairement voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà ce qui se passe si l'on n'agit pas aujourd'hui. Voilà ce qui va se passer en Suède, voilà ce qui va se passer au Canada, au Royaume-Uni. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ces briefings-là, la réaction que l'on a des gens qui sont en face de nous, vraiment, c'est une réaction de choc et d'horreur quand on leur montre ce qui est en train de se passer. Alors que ça fait plus de 30 ans qu'il y a des rapports du GIEC qui sont publiés. C'est pas comme si cette science, elle était vraiment verrouillée à double tour, qu'elle était vraiment difficile d'accès. Du moins, les gouvernements ont vraiment accès à ce genre d'informations, mais avance à petits pas ou avance à reculons et rien ne bouge. Et c'est vraiment la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que quand tu regardes les gouvernements du monde entier, vraiment quels qu'ils soient, c'est vraiment des petits pas. Les choses n'avancent pas du tout, mais pas du tout assez vite. Ou même parfois pas du tout dans la bonne direction. Alors que je pense qu'ils ne fonctionnent pas sur les mêmes échelles de temps. Pour eux, les échéances, c'est évidemment la prochaine élection. Et pour nous, la prochaine échéance, c'est le prochain dixième de degré qu'on risque de gagner, qui risque d'arriver encore plus tôt, mais ça, ils ne le voient pas. Et c'est vrai que je t'assure qu'aujourd'hui, nous, les scientifiques, on ne sait pas comment prendre ça. On ne sait pas comment communiquer cette urgence absolue, cette catastrophe globale qui est en train de se passer. On n'arrive pas à utiliser des mots assez forts, j'ai l'impression, des images assez puissantes, alors qu'on leur explique très clairement ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est ce qu'on voit au niveau des gouvernements. Mais après, on voit l'opposé total quand on s'adresse aux jeunes générations, quand on s'adresse au grand public. Là, ce qu'on voit, c'est pour nous, une bouffée d'espoir énorme, c'est-à-dire qu'on voit que ça bouillonne dans tous les sens, ça bouillonne au niveau des solutions. On voit que les gens comprennent qu'il y a un problème au niveau de l'énergie. Le problème principal, ce sont les énergies fossiles dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Il y a des solutions qui émergent de partout. Il y a un besoin de changement. On sait que le dérèglement climatique, c'est une des préoccupations principales des Français notamment. Et on sait que la population veut que ça change. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau du gouvernement, il y a une déconnexion totale. Donc aujourd'hui, il y a ceux qui veulent changer les choses et ceux qui peuvent changer les choses. Et malheureusement, les deux sont complètement séparés. Et moi, je continue à avoir l'espoir que la science va pouvoir aider les jeunes générations, aider le grand public et aider les gouvernements à réagir. Mais pour l'instant, on a vraiment du mal à communiquer de façon suffisamment forte ce qui est en train de se passer. Et on essaye, crois-moi, on lâche rien. C'est pas facile, mais on lâche rien.
Depuis notre rencontre et l'enregistrement de cet épisode, Heidi est repartie en expédition en Colombie, au chevet de l'un des derniers glaciers tropicaux. Et puis elle a quitté Annecy, et elle est revenue vivre là où tout a commencé, au Svalbard. Vous venez d'écouter la seconde partie de l'épisode 5 des Givrés d'épaule, réalisé par Oriane Larromiguière, avec la musique originale d'Hélène Lemay et les productions Tuxedo Swing, et le mixage de Laurie Vachon. Un grand merci à Heidi Sevestre pour sa participation. Retrouvez les Givrés d'épaule sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook et partagez cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute favorites. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!
C'était le dernier épisode de la série Les Givrés d'épaule réalisée par Oriane Larromiguière. Cette émission est à retrouver en podcast sur jetfm.fr. À 19h, retrouvez Chemin d'Afrique par Calomé. Bonne soirée sur JetFM.